je vous ai tout simplement demandé de quoi souhaiteriez-vous que nous puissions parler ensemble. Et vous m'avez dit spontanément de la présence. Pourquoi la présence ?
Parce que, comme vous l'avez très bien dit, pendant des années, j'ai œuvré auprès des personnes en fin de vie, des personnes qui allaient mourir, et que j'ai découvert la puissance de la présence, la dimension ontologique de la présence, puisque lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui est très vulnérable, quelqu'un qui a tout perdu et qui va mourir, la seule chose que nous puissions donner, c'est la profondeur de notre attention et de notre présence. Et ce constat m'a amené à approfondir aussi moi-même ma propre quête, ma propre recherche sur la présence. Qu'est-ce que c'est que la présence ? C'est pas seulement un mot, c'est quelque chose qui se vit, qui se développe. J'ai découvert à travers, par exemple, l'haptonomie, qui est la science du contact, que l'on pouvait développer sa qualité de présence, c'est-à-dire essayer de développer une présence ouverte, une présence accueillante, que ça s'acquiert. Au fond, c'est tout l'aspect aussi pragmatique de la présence qui m'a intéressée. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'au fond, c'est une notion très spirituelle.
Vous venez de parler de l'haptonomie, le mot n'est pas facile à dire. Je crois que c'est quelque chose d'ailleurs qui se développe actuellement dans les milieux un peu hospitaliers. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait de formation de ceux qui sont en lien avec les infirmières ou les médecins. Vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que je crois que c'est qu'on connaît mal, mais ça se développe.
C'est peu connu, c'est surtout connu dans les maternités, parce que chaque fois qu'un couple attend un enfant, on lui propose un accompagnement haptonomique, ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce qu'au fond, la découverte de Franz Wellmann, c'est que le premier des sens de l'être humain, c'est le sens du contact. La peau, et c'est la première chose qui se développe dans l'embryogenèse. Et donc, accueillir, contacter un enfant, c'est lui donner, même avant qu'il ne naisse, le sentiment d'être accueilli dans ce monde. C'est lui transmettre qu'il est un être de contact, qu'il a sa place dans le monde. Et au fond, tout au long de notre vie, nous avons un besoin, vital de présence, de proximité. Nous le savons. Et nous en avons encore plus besoin, au moment de mourir, puisque c'est la seule chose qui peut nous communiquer une vraie sécurité ontologique. L'haptonomie, c'est donc quelque chose qui est connu au début de la vie, mais que beaucoup de psychanalystes ou de médecins pratiquent dans les différentes étapes, auprès des grands malades, auprès des personnes handicapées, puisque le contact humain, c'est au fond la seule chose qui vous fait sentir profondément que vivre a un sens.
Mais alors, c'est assez curieux parce qu'on pourrait se dire, au fond, le sens du contact, c'est quelque chose qu'on devrait avoir presque de manière innée. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de civilisations autres que la nôtre, les gens savent toucher, savent avoir un contact. On voit comment les mères en Afrique touchent leurs bébés, comment en Asie aussi le contact des fois se fait très spontanément. Et là, est-ce qu'on n'a pas tout simplement perdu quelque chose de naturel dans nos sociétés occidentales ?
On l'a perdu en Occident, absolument. Parce que nous avons beaucoup développé le cortex, nos fonctions corticales, nous pensons beaucoup. Et c'est vrai que nous sentons beaucoup moins. Et c'est un appauvrissement. Wellmann dit que nous sommes dans une société haptophobe, qui a peur du contact. Et c'est vrai qu'on voit les gens se méfient les uns des autres. Alors qu'un enfant, par exemple, qui a été accueilli d'une manière haptonomique, c'est un enfant qui, à l'âge de 2 ans, si vous le voyez sur une plage, il va spontanément vers les autres. Il n'a pas peur des autres. Il y va avec confiance. L'autre n'est pas un ennemi. Et quand un enfant arrive avec confiance, on l'accueille. Donc en fait, cette faculté de contact, si nous pouvions la retrouver, certainement notre humanité serait différente.
Alors, ça passe toujours effectivement par le corps. Donc on voit que le premier langage, c'est le langage du corps. C'est le plus fondamental. Ce que vous dites, ça sécurise l'être. profondément. Et c'est vrai qu'en Occident, on a beaucoup développé le langage, la parole, que les parents ont réappris d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi toute une culture de la pudeur dans laquelle on ne disait pas à ses enfants qu'on les aimait. Donc déjà, on voit qu'il y a une première réappropriation de la parole dans laquelle on a appris à dire ses sentiments, exprimer. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est en train de réapprendre au fond aux parents à avoir un contact avec leurs enfants, et peut-être aussi aux enfants à avoir un contact avec leurs parents lorsqu'ils meurent.
C'est ça. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs le langage, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas mettre des mots et une parole. Vous savez, c'est Norbert Elias qui disait dans un livre sur la solitude des mourants que c'est quand même incroyable que nous soyons dans un monde dans lequel on ne touche plus celui qui va mourir, alors que c'est la seule chose qui l'attend. C'est ce contact qui va lui permettre justement de lâcher prise.
Moi, je me souviens d'avoir vécu une expérience très, très forte lorsque j'avais été en Inde. J'ai travaillé chez Mère Teresa dans un mouroir. Évidemment, je ne pouvais pas du tout parler la langue des hindous de Calcutta qui étaient en train de mourir. Donc, je ne pouvais que leur toucher la main, la tête. Et je me souviens à quel point j'avais établi une relation bouleversante avec des mourants simplement par le contact physique. Donc, j'en ai fait cette expérience tout à fait directe. Est-ce que vous l'avez vécu de nombreuses fois? C'est-à-dire, est-ce que vous avez accompagné des tout petits enfants ou des mourants en leur tenant la main? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience-là, et peut-être une anecdote, quelque chose de concret qui fasse comprendre à nos auditeurs comment ce contact rétablit finalement une confiance, une paix chez celui qui est réconforté par le toucher?
Oui, alors je me souviens d'un homme qui était recroquevillé dans son lit et qui avait des douleurs terribles au niveau des reins, et qui était d'ailleurs, on ne comprenait pas trop pourquoi ça ne correspondait pas à sa pathologie. Et je me suis assise, je m'asseyais beaucoup sur le lit, ce qui m'a été pas mal reproché ensuite, cette proximité, mais je l'ai défendue bec et ongle parce que je pense que c'était essentiel. Donc je m'asseyais sur le lit et je me suis arrangée de façon à ce que cet homme s'enroule autour de moi. C'est-à-dire qu'il était recroquevillé, mais j'ai posé simplement ma main très doucement sur un endroit où il avait mal, c'est-à-dire au bas du dos. Et je suis restée là, sans rien faire, dans le contact. Et cet homme s'est apaisé et il s'est mis à me raconter qu'en fait, il n'avait jamais été désiré et que sa mère avait fait des tentatives multiples pour essayer d'avorter. Et en fait, la douleur qu'il ressentait, c'était au fond les douleurs probablement que sa mère devait ressentir dans les contractions qu'elle avait essayé de déclencher, mais qui n'avait pas abouti, puisqu'il était finalement, il s'était accroché. Et c'est extraordinaire de voir qu'il avait pris sur lui la douleur de sa mère, et au moment de mourir, il était avec cela. Et là, dans ce contact que j'avais établi avec lui, il s'est détendu, hein, il a senti qu'il était accepté, et il s'est complètement apaisé. Donc j'ai fait l'expérience là que le contact tactile est vraiment quelque chose qui peut chercher très très loin dans l'histoire et réparer des blessures très anciennes. Et même si cet homme effectivement est mort, je crois, quelques jours plus tard, eh bien c'était important, au fond, qu'il se sente accueilli dans cette existence, alors qu'il avait eu le sentiment au départ de sa vie qu'il n'avait pas sa place.
Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, justement, c'est une question que je voulais vous poser, c'est qu'un enfant qui a manqué profondément donc, de cette sécurité liée au contact, est-ce que, sans attendre l'ultime moment de la mort, est-ce qu'on peut réparer, c'est-à-dire, est-ce qu'au cours, je dirais, de sa vie d'adulte, quand il est conscient, plutôt que de faire une thérapie verbale, est-ce qu'il existe des thérapies par le toucher?
Ah ben, bien sûr, puisque l'aptonomie, c'est une formation que font des psychiatres, que font des psychothérapeutes, que font des médecins, des pédiatres, pour justement permettre à un enfant qui aurait un sentiment d'insécurité de retrouver...
Un enfant ou un adulte?
Un enfant ou un adulte, bien sûr, parce qu'on a toujours son enfant blessé à l'intérieur de soi. Donc, à tout moment de la vie, et y compris même tard, on peut éprouver cette sécurité ontologique, encore une fois, ce sentiment de plénitude, de bien-être auquel tout humain a droit. et dont certains ont été privés par leur histoire.
Donc ce manque est réparable pour vous, ça peut être une thérapie
de... Absolument, c'est ce qui différencie peut-être l'autonomie de la psychanalyse, où on pense peut-être que, ce, que le manque finalement est, et que ce qui a manqué...
Oui, on ne guérira jamais vraiment.
Voilà, c'est d'une certaine façon, c'est vrai et pas vrai en même temps, parce que l'être humain est un être qui va de l'avant, et que notre énergie vitale peut à tout moment découvrir quelque chose de nouveau. Donc on peut à tout moment faire l'expérience de la sécurité de base. Et ce n'est jamais trop tard.
Je me demandais si on voit de plus en plus d'Occidentaux qui se font masser. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout il y a 15 ou 20 ans. C'était, le massage était perçu comme presque sexuel, quoi. C'était très dangereux, ça faisait très peur. Aujourd'hui, ça se développe énormément. On voit dans tous les hôtels, on peut se faire masser. Ça se développe dans plein de cadres très différents. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est justement parce que beaucoup d'Occidentaux ont manqué de toucher dans la petite enfance qu'on cherche à compenser par un toucher qui peut être, à travers le massage, réparateur?
Oui, à condition que le contact soit un contact dans lequel on se sente vraiment restauré, parce qu'on peut aussi être massé un peu comme un objet. Et ça dépend beaucoup de la qualité du massage, entre parenthèses. Je crois que là, c'est là la formation est importante.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une présence, en fait, dans le massage.
Alors, c'est ce que vous dites. C'est le mot.
Ce n'est pas le massage technique, en fait.
Ce n'est pas le massage technique. Il faut qu'il y ait une présence, que vraiment on sente que l'on est confirmé dans son être. Et que l'on est accepté comme la personne que l'on est, vraiment. Et ça se sent, ça se perçoit.
C'est très concret. Mais je le comprends très bien. Mais est-ce que cette présence, c'est une intention de celui qui donne le toucher? Est-ce qu'il doit y avoir une qualité de quoi? D'amour, une empathie, un désir de faire du bien?
C'est une qualité où on est là sans rien vouloir de l'autre. C'est une qualité où il y a à la fois du tact, vraiment le mot tact est très beau, hein. Il y a la délicatesse, la finesse, la présence, le respect, hein. On ne fait pas n'importe quoi, et la tendresse, parce qu'il y a un mouvement vers l'autre et en même temps une retenue. Il ne s'agit pas de blesser l'autre, ni de le prendre, hein, ni de le capter, ni de l'objectiver, on va vers l'autre, mais avec cette retenue. Je dirais, c'est une distance d'amour qui est justement le lieu spirituel de la rencontre. C'est cette qualité-là de présence, d'être proche et en même temps à distance.